France, présente dans 14 pays et leader en assurance vie en Afrique subsaharienne francophone, vous propose Priorité Santé.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. On estime aujourd'hui à 1 400 000 le nombre d'adolescents vivant avec le VIH dans le monde. En 2015, ce sont encore 160 000 enfants qui ont été infectés, ce qui représente près du tiers des nouveaux cas recensés. Alors c'est vrai, le nombre d'enfants et de jeunes séropositifs a fortement baissé depuis l'extension des traitements antirétroviraux, mais la tâche reste immense. Une tâche qui a pour socle la prévention et le dépistage. Connaître son statut sérologique, se protéger, se soigner, une prévention particulière pour cette population vulnérable. L'insouciance se conjugue à la peur des discriminations entourant la maladie et les réponses, elles, ne sont pas toujours à la hauteur. Une jeunesse vulnérable car sa prise en charge est souvent insuffisante, absence d'éducation sexuelle, manque d'interlocuteurs formés et concernés, une cible qui impose aussi d'adapter les schémas thérapeutiques, accompagner le jeune patient, l'écouter, défis multiples et enjeux vitaux, faire accepter à un adolescent le caractère impératif de ce traitement pour que ses rêves d'avenir ne s'éteignent pas avec la révélation de sa séropositivité. VIH-SIDA, où en est la prévention des adolescents? Une émission enregistrée à l'occasion de la 19e édition d'ICASA, la conférence internationale sur le SIDA et les IST en Afrique, qui se tient ici, à Abidjan. Une émission produite avec le concours du Fonds français Muskoka pour la réduction de la mortalité maternelle néonatale et infantile. Avec nous ici à l'Institut français, Dr Hortense Acca, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue clinicienne et maître de conférence à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocodia, Abidjan. Docteur Patricia Fassino-Ekwevi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes pédiatre à Abidjan, directrice scientifique et programmatique à la Fondation Elisabeth Glaser. Également avec nous, Rose Dossou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la présidente de l'association Shigata, la toute première créée en Côte d'Ivoire pour les enfants vivant avec le VIH. Et un comédien aussi autour de cette table, Mohamed Keïta, bonjour.
Bonjour.
Vous interprétez le rôle de Julien dans la série C'est la vie, serrée, télévisée, tournée au Sénégal.
RFI.
Rose Dossou, vous côtoyez depuis des années au quotidien ces adolescents qui vivent avec le VIH. Comment se passe aujourd'hui leur prise en charge ici à Abidjan?
La prise en charge des adolescents vivant avec le VIH se passe très bien avec les ARV qui sont disponibles dans les centres de santé, mais le volet communautaire est toujours un véritable problème pour les familles et pour les adolescents eux-mêmes.
Alors, les antirétroviraux à disposition des personnes malades, cela dans le cadre des programmes notamment de l'OMS, les programmes internationaux de santé. Votre association Shigata existe depuis plus de 15 ans, Rose Dossou. Où en sont maintenant les adolescents séropositifs que vous avez accompagnés au début des années 2000? Que sont-ils devenus?
Les adolescents, ils sont aujourd'hui de grands adolescents. Beaucoup sont décédés malheureusement, mais certains sont là. Ils font la fierté de l'association Shigata qui les a accompagnés depuis leur jeune âge jusqu'à aujourd'hui. Certains sont à l'université, d'autres sont devenus des mères et certains aussi sont dans des activités, ils ont appris des petits métiers. Donc, ils sont devenus des entrepreneurs entre guillemets.
Docteur Hortense Acca, on ne communique pas sur le VIH ou sur les infections sexuellement transmissibles, les IST, de la même manière, avec des collégiens, avec une future maman ou avec un homme de 40 ans, il faut s'adapter à ce public particulier. Alors comment ça se passe justement quand on parle à des adolescents de prévention et si jamais il y a eu un dépistage qui a révélé une séropositivité, comment on parle de la maladie?
Effectivement, les adolescents, c'est une frange particulière de la population et nous savons tous que la majorité des jeunes en Afrique sont des adolescents et qu'ils sont l'avenir de demain. Donc il est important pour eux d'avoir des informations, d'avoir une communication qui leur permette de rester en vie et d'avoir une qualité de vie. On ne communique pas avec des adolescents comme on communique avec les autres parce que l'adolescence est aussi la phase où il y a tout un remaniement psychologique, il y a tout un remaniement aussi physiologique et l'enfant devient jeune homme ou jeune fille. Et à partir de ce moment-là, il y a des préoccupations qui sont tout autres. Et le problème de la sexualité est vraiment un problème central de l'adolescence. C'est la raison pour laquelle il faut prévenir déjà en communiquant, en faisant une éducation sexuelle sur la santé sexuelle et reproductive, mais également en écoutant les sentiments et ce que peuvent éprouver les adolescents. Il s'agit de pouvoir aussi comprendre que ces adolescents ont des sentiments qui sont des sentiments normaux vis-à-vis de l'autre sexe et que ces sentiments, on doit pouvoir en parler. Mais la problématique est particulière parce que c'est pas facile de parler de sexualité, c'est tabou, surtout en Afrique, et il est difficile pour des parents d'échanger sur ces sujets-là avec leur enfant.
Docteur Patricia Fassinou-Ekwevi, est-ce que vous diriez que les adolescents sont particulièrement vulnérables face au sida?
Oui, les adolescents sont vulnérables face à l'infection VIH-SIDA parce que il faut déjà qu'on se pose la question, c'est quoi l'adolescence? L'adolescence, justement, c'est cette période de transition entre l'enfance et l'âge adulte. Et cette période de transition est caractérisée par une maturation tant sur le plan physique, psychologique, mais également sur les activités sexuelles et les sentiments. Donc, cette maturation-là, liée à la puberté, peut être très agressive selon les enfants, liée au contexte socioculturel, mais comme vous l'avez dit, ça peut être aggravé par certaines vulnérabilités. Et dans ces vulnérabilités rentre l'infection à VIH-SIDA. Oui.
Docteur Patricia Fassinou-Ekwevi, question pratique. Quand un jeune... Une jeune a un rapport à risque. Que doit-il, que doit-elle faire rapidement?
Rapidement, c'est se rendre dans une structure de santé. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle la prévention des accidents d'exposition au sang et autres liquides contaminants. Il faudrait qu'elle se rende dans les 48 heures dans une structure de santé et dire justement qu'elle a eu un rapport à risque et une procédure de prise en charge de prévention de cette contamination va se mettre en place.
Vous dites « elle ». Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ce sont les filles qui sont les plus vulnérables ?
Je dirais oui, qu'elles sont plus vulnérables parce qu'aujourd'hui, surtout dans notre contexte africain, la négociation du préservatif est très rare venant de la femme. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand vous entendez des jeunes filles que vous dites « mais pourquoi tu n'as pas proposé le port de préservatif ?» Elle dit « mais je ne veux pas passer pour une fille de mœurs légères parce que c'est comme si j'ai plusieurs amis. » Ou bien c'est comme si je me reproche quelque chose, que j'ai peut-être une maladie et que j'aimerais cacher en demandant le port du préservatif. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai dit jeune fille, mais je dirais même un jeune homme, parce que tout le monde peut être victime de sévices sexuels.
Nous allons l'entendre, hein, l'insouciance normalement propre à l'adolescence, tout ça vole en éclats quand il y a l'annonce de la maladie, ça peut aussi être simplement à cause des aléas de la vie de famille. Pour ce garçon, le couperet est tombé, hein. Il s'appelle Moussa, il a 17 ans, il vit en périphérie d'Abidjan, et il sait depuis un an qu'il est séropositif, sa mère est séropositive, elle aussi, elle est veuve depuis l'an passé et elle s'est retrouvée seule pour subvenir aux besoins de ses 5 enfants. Alors pour l'aider, Moussa travaille, il est maçon dans un chantier voisin de son école.
Quand j'ai connu mon statut, j'avais mal, je pleurais. Moi je pensais que c'était déjà fini pour moi. Mais il y a la dame là, elle m'a parlé que non, il faut me donner des médicaments pour calmer le virus. Si je prends, je vais vivre jusqu'à mon dernier souffle. Et c'est là que je me suis habitué au médicament. Chaque soir, je prends avant de dormir. Aussi à midi.
Quand tu as appris ton statut, est-ce que tu savais ce que c'était comme maladie?
Je connaissais ça. Je voyais passer ça à la télé. On parlait de ça beaucoup. Je ne pensais pas que j'allais avoir ça un jour.
Et est-ce qu'ici, dans ton quartier ou bien à l'école, est-ce que tu as déjà eu des réunions pour t'expliquer ce que c'est que ce type de maladie et comment faire pour éviter de l'avoir?
Oui. Ouais, à l'hôpital, souvent, il vient voir ma tante. Elle me parle beaucoup. Chaque 2 semaines, quand je viens, elle me sensibilise sur ça. On m'a dit de ne jamais utiliser des lames que quelqu'un a utilisé. Quand tu veux faire un rapport sexuel, il faut te protéger, ne pas utiliser. Bon, c'est un peu ça, quoi.
Comment ça se passe, le traitement? Est-ce que tu y as accès facilement? Est-ce que c'est pas quelque chose de très contraignant pour toi?
Non, c'est facile. Chaque soir, avant de dormir, je prends les médicaments. Aussi à midi, quand je finis de manger, je prends. puis je me couche. Mais c'est facile pour moi, ouais. C'est facile.
Et ce sont des médicaments qui sont gratuits?
Oui, c'est gratuit. Dès que ça finit, je viens prendre. Et surtout les kits, chaque fin de mois, on nous donne. Bon, les kits alimentaires, les sardines, bon, sacs de riz, et aussi les quakers, ça nous donne chaque fin de mois. Aussi l'huile.
Est-ce que c'est un traitement qui est lourd pour toi à supporter? Est-ce que tu te sens fatigué de temps en temps? Ça se passe comment? Ou est-ce que tu supportes plutôt bien?
Bon, au commencement, quand je prenais, les matins, quand je me réveillais, je suis faible. Mais quand j'ai commencé à m'habituer, ça allait un peu jusqu'à maintenant. Quand je me lève, je suis en bonne santé.
Ici, tu es quasiment, avec ta maman, le seul à connaître ton statut. Pour quelle raison?
Pour ne pas que les gens me fuient. Il y a beaucoup qui n'ont pas beaucoup d'informations dessus. Dès qu'ils apprennent que tu as cette maladie, ils sont loin de toi en même temps, un coup. Ils pensent que tu vas les contaminer. Pourtant, ce n'est pas ça.
Est-ce que tu es toujours avec ta petite amie? Est-ce que vous êtes toujours ensemble?
Oui, on est toujours ensemble. Ça fait 4 ans qu'on est ensemble. Ça se passe bien. On est tout ensemble, on est à l'aise.
Est-ce que tu te souviens comment ta petite amie a réagi le jour où tu lui as révélé ton statut?
Je ne l'ai pas révélé mon statut. Je l'ai appelé à venir faire son test aussi. Quand elle a su qu'elle avait ça, elle pleurait. Moi aussi, je lui ai dit que j'ai cette même maladie-là. Donc, ce qu'on a fait, on doit prendre un médicament pour mieux vivre, pour vivre comme les autres. À midi, quand elle n'est pas là, je l'appelle. Je lui demande si elle a pris son médicament. Elle dit oui. Chaque soir aussi, je l'appelle.
C'est vraiment très important pour vous de suivre matin, midi, soir, tous les dosages de votre traitement?
Oui, c'est beaucoup très important pour moi, pour mieux vivre, pour avoir la bonne santé, pour ne pas vite mourir. Parce que si je ne prends pas le virus, il s'améliore un peu, et finit à me tuer. C'est ça.
Témoignage de Moussa recueilli par Binta Diagne. Je signale que sa voix et son nom ont été modifiés. Anonymat qui s'explique, Rose Dossou, par la crainte de la stigmatisation, peur d'être reconnue. C'est d'ailleurs vrai dès le début, hein. Quand on va se faire dépister, certains n'y vont pas parce qu'ils ne veulent pas être vus au centre de soins dans ce département particulier.
Effectivement, de peur d'être reconnue ou d'être rejetée par la communauté, beaucoup de personnes refuse au départ d'aller se faire dépister. Mais avec le temps, avec la sensibilisation aujourd'hui, il y a certaines personnes qui décident d'aller faire le test, mais toujours est-il que le résultat reste secret. Il faut quelqu'un de très proche pour pouvoir partager son statut sérologique.
Vous mettez justement en garde les jeunes face à ça en disant, tu le sais maintenant, fais attention. Choisis bien ces personnes, justement pour éviter que demain, éventuellement, ça se retourne contre toi.
Le conseil qu'on leur donne dès le premier jour, on leur dit, tu peux prendre le temps pour réfléchir et décider à qui tu veux informer ton statut, parce que c'est pas urgent. Il faut pas informer quelqu'un de la famille pour que demain tu sois rejeté.
Stigmatisation, discrimination, y compris de la part de certains soignants. Ces jeunes peuvent craindre, bien sûr, certains désagréables. D'ailleurs, y compris, justement, quand on va à l'hôpital, dans un centre de soins, ces jugements, l'insulte, le rejet, hein, parfois être mis carrément à la porte de la maison. On va l'évoquer avec vous, Mohamed Keïta, interprète de Julien, dans C'est la vie. Un moment complexe, on en a parlé, c'est le dépistage, particulièrement pour les jeunes, même si, en fait, on se rend compte, c'est compliqué pour tout le monde. Tout de suite, un extrait de cette série télévisée.
Mon ami, il a un sérieux problème. Et moi, je ne sais pas comment l'aider. Il a couché avec sa copine. Et elle pense qu'elle est enceinte. Ils veulent acheter un test de grossesse pour en être sûr.
De quand date exactement le rapport?
D'hier après-midi.
Non, il est trop tôt pour que le test de grossesse détecte si elle est enceinte ou pas. Mais dans l'immédiat, si elle ne veut pas être enceinte, elle doit prendre la pilule du lendemain. Dis à tes amis d'aller à la pharmacie et d'acheter une PCU. Tous les pharmaciens connaissent ça.
Et c'est quoi la PCU?
PCU. Pilule de contraception d'urgence. Et ton ami, tu crois que c'est un gars fidèle? Parce que sinon, il faut aller faire un test sanguin immédiatement pour détecter une éventuelle maladie sexuellement transmissible.
C'est pas la peine. C'est leur première fois à tous les deux.
Et même si c'est leur première fois, il faut toujours faire un test après des rapports non protégés. On ne sait jamais si l'autre dit la vérité ou pas. Ok? Et dis à tes amis que pour que la PCU soit efficace, il faut la prendre dans les jours qui suivent les rapports sexuels. Ok?
Mohamed Keïta, qu'est-ce qui se passe à ce moment précis de la série?
pendant ce temps, quand Jean-Paul me parle par rapport à la pilule, et il y avait l'arrivée du lieutenant Chanty, parce que aussi dans la série, Julien, il fait du trafic de médicaments. Et le problème, pour le moment, c'était par rapport à la pilule, parce qu'il avait couché avec Rachel. Et voilà, ils étaient dans le manque d'informations. Et pour pouvoir expliquer ça à Jean-Paul, Julien a dit à Jean-Paul que c'est en fait un ami qui a un problème par rapport à ça.
Vous savez, nous, on a les auditeurs qui nous appellent dans l'émission. Très souvent, ce sont les problèmes de leurs amis. En réalité, ce sont leurs propres problèmes.
Exactement.
Je pense que pour tout le monde, c'est un peu ce qu'on dit. J'ai quelqu'un dans mon entourage qui, puis en fait, c'est nous-mêmes. En tout cas, on voit que ça implique beaucoup de personnages. Vous avez vous-même 24 ans, c'est bien ça?
Oui, exactement.
Et quand vous jouez ce rôle, quand vous parlez de sida, séropositivité, grossesse non désirée, est-ce que vous avez l'impression que ça contribue finalement à une forme d'éducation sexuelle, ce genre de programme?
Exactement. Ça éduque, ça apporte des informations par rapport à des gens qui ne savent pas. Moi, quand je prends mon entourage, par exemple, quand ils voient les scénarios, depuis là, on commence à en débattre. Et pour moi, c'est la bonne information. Après, maintenant, c'est juste un problème de temps, d'adaptation, de comprendre la chose. Pour moi, c'est une bonne occasion maintenant de pouvoir en parler. On le voit à l'image. Après, on en débat facilement.
On voit que c'est une question de génération. On dit difficulté d'en parler avec les parents. Est-ce que c'est facile d'en parler entre vous, entre jeunes? Et puis, si on se projette dans l'avenir, c'est compliqué de le faire, mais quand même, est-ce que ce sera facile demain d'en parler à ses propres enfants?
Entre jeunes, pour moi, déjà, c'est facile. Parce qu'on se cache pas des choses. On se dit les choses telles qu'elles sont. Après, maintenant, par rapport à mon statut, moi, je me vois comme quelqu'un d'ouvert. Quelqu'un qui comprend pas mal de choses, parce que je partage pas mal de trucs avec des amis, des secrets, où je leur apporte des conseils. Et pour moi, il y aura un feeling super avec mes enfants et moi, parce que j'ai pas eu ce feeling avec mes parents. Donc je me dis que je vais pas calquer ce que j'ai vécu avec mes parents. Au contraire, je vais apporter une autre chose, parce que pour moi, il y a deux générations. Et pour faire la transition entre moi et mes parents et moi et mes enfants, et je crois que je serai un super père, Inch'Allah.
On espère aussi pour vous et pour vos enfants. En tout cas, c'est quoi le retour, les réactions de votre entourage? Et puis peut-être surtout aussi des jeunes téléspectateurs, Mohamed Keïta. Qu'est-ce qu'ils en pensent de un petit peu de ce déballage? C'est pas du tout négatif quand je le dis, mais parler comme ça crûment de la vie quotidienne.
Pour dire vrai, ça coince un peu, parce que quand on croise des gens qui nous félicitent par rapport à ce qu'on fait, et ils nous voient à la télé ou sur les réseaux sociaux, qui nous envoient des messages, tout le monde va avoir parfois nos numéros, quand ils nous voient sur Facebook. Après, quand on en débat réellement, quand on en parle, il y a d'autres qui posent des questions, qui disent, est-ce que réellement votre série, ça incite pas les jeunes à coucher ou à faire autre chose? Non, pour moi, ça nous permet au contraire de pouvoir en débattre avec eux. Ça devient des sujets de discussion, de débat, on en parle, on échange, et au finish, ils disent, ouais, au final, votre série, ça cartonne, ouais, ça vaut le coup. Ça sert à quelque chose.
Ouais, parler du VIH dans une série, un moyen d'informer, montrer aussi que les héros du petit écran, hein, ceux qu'on met des fois sur un piédestal, sont confrontés à des préoccupations du quotidien. Docteur Patricia Facinou-Ekwevi, ça rappelle aussi, parce que ce sont avant tout des histoires de cœur, que tout cela, c'est de l'amour, que tout ça, même s'il y a des relations sexuelles, eh bien c'est la concrétisation de cet amour, et que même quand on parle santé sexuelle, on parle d'abord de sentiments.
Exactement. Et j'étais à une réunion pas plus tard qu'hier. Il y a eu une petite enquête qui a été faite auprès des adolescents vivant avec le VIH. La seule chose qu'ils ont demandé, ils ont dit, on veut de l'amour. De l'amour de la part des soignants, de l'amour de la part de nos familles et de l'amour par rapport aux autres membres de notre entourage. Donc, l'amour au cœur des sujets pour les adolescents.
Alors, on va continuer de parler d'amour, de sexualité, d'insouciance, de jeunesse et aussi de maladie, ce regard des autres sur la jeunesse. Mesdames, docteur Hortense Akka, Patricia Facinou-Ekwevi, Rose Doussou, avec vous aussi, Mohamed Keïta, dans la seconde partie de Priorité Santé, nous insisterons sur une dimension essentielle de l'approche de la prévention du VIH chez les adolescents. Il s'agit de l'observance. On se retrouve juste après le point d'actualité, dans 3 minutes.
Priorité Santé, Caroline Paré.
Dans la première partie de cette émission consacrée à la prévention du VIH chez les adolescents, nous avons abordé la question du diagnostic et aussi de certaines appréhensions de la part des jeunes, cette peur du regard des autres, cette crainte de la maladie aussi qui peut parfois retarder le dépistage. On retrouve nos invités ici à Abidjan où se tient toute cette semaine la conférence ICASA sur le sida en Afrique, une émission enregistrée à l'Institut français où nous sommes toujours en compagnie du docteur Hortense Aka, psychologue clinicienne, du docteur Patricia Fassinou Ekwevi, pédiatre à Abidjan, Rose Doussou, présidente de l'association Shigata qui accompagne des enfants vivant avec le VIH, et avec nous aussi Mohamed Keïta qui interprète le rôle de Julien dans la série C'est la vie qui est tournée au Sénégal. Mohamed Keïta, quand on est un jeune à Dakar, à Bamako, à Kinshasa ou à Abidjan, même si vous n'êtes pas vraiment de toutes ces capitales, comment est-ce qu'on s'informe sur les relations sexuelles? D'abord, est-ce que vous, par exemple, au cours de votre parcours scolaire, on vous a parlé d'amour et de sexualité?
Ouais, on m'a parlé de tout ça. Et j'ai fait un peu pas mal de ces capitales parce que je suis né à Abidjan. Après, je suis au Sénégal, j'ai grandi là-bas. Durant les vacances, je suis un peu à Bamako, parfois à Conakry. Donc,
vous êtes africain.
Voilà, je suis africain. Voilà.
Est-ce qu'on parle de sexualité de la même façon dans ces différents pays, par exemple?
Pour les vrais, si je prends l'exemple du Mali et de la Guinée, quand je vois mes parents, ils en parlent moins. En tout cas, ça se parle pas trop, ça se dit pas trop. Mais quand je prends l'exemple du Sénégal, par exemple, à l'école, on en parle. Dans les lycées ou dans les collèges, on en parle beaucoup. Il y a d'autres qui sont engagés, il y a d'autres qui ne le sont pas. Mais pour moi, il faut être tout le temps au cœur de l'information. Il faut toujours savoir ce qui se passe. Il y a quand même la chance, est-ce que dans les programmes scolaires, à l'école par exemple, avec les professeurs ou bien avec les surveillants et autres, est-ce que parfois on communique sur ces choses-là grâce aux clubs? À chaque fois, c'est eux qui sont les coordinateurs de ces clubs et on en parle beaucoup. Et pour moi, c'est en plus parce que cette chose, ça se fait pas à la maison, c'est un peu compliqué. Dans le cadre général, du moins. On n'en parle pas trop à la maison et c'est une chance d'en parler à l'école.
Tout à l'heure, vous disiez avoir des échanges assez francs avec vos amis, par exemple, parler du préservatif, aller en acheter, c'est naturel ou c'est compliqué?
C'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est compliqué parce que moi, j'ai pas mal d'amis qui m'en demandent parce que c'est mal vu d'aller à la pharmacie quand t'arrives pour acheter des préservatifs par exemple et que tu trouves une clientèle là-bas, t'as du mal, tu essaies d'attendre à ce que tout le monde sort ou bien celui qui est à la pharmacie quand il te regarde d'une façon dont c'est super compliqué. Moi j'ai essayé, je l'ai fait, je suis rentré pas mal de fois dans les pharmacies parce qu'on avait débattu de ça à l'UNFPA à Dakar et c'est exactement le même regard que je vois. Mais pour moi c'est quelque chose qui doit être naturel parce que avec les risques que l'on a, des grossesses, des VIH, SIDA, tout autre. Pour moi, on doit pouvoir, quand on passe à ces actes-là, on doit être responsable, mature, et pouvoir rentrer dans une pharmacie et acheter ce que l'on veut.
Docteur Patricia Fassinou Ekwevi, on sent une forte curiosité, une soif de savoir, d'apprendre de la part des jeunes, et des fois une sorte de blocage culturel avec la génération des parents qui n'est pas prête justement à communiquer sur ces questions. Là, c'est un véritable problème entre les générations.
Oui, exactement. Et je pense que c'est là aussi que le rôle des structures de santé et des soignants rentre en ligne de compte. On sait que ça ne se passe pas facilement, ce n'est pas aisé dans les maisons. Et donc, nous, on prend là notre casquette maintenant d'éducateur, notre casquette de médecin pour la prévention, de personnel de santé pour la prévention. Et donc, souvent, c'est à nous dans les consultations d'aborder ces questions. Quand c'est dans les services de pédiatrie, on le fait avec des enfants un peu plus grands. Mais c'est là qu'on voit, par exemple, pour les adolescents vivant avec le VIH, c'est là tout l'intérêt par moment qu'ils quittent les services de pédiatrie pour aller dans les services des adultes en passant par une période de transition dans les services qu'on essaie de mettre en place actuellement en Afrique, les services de transition pour les adolescents. Parce que chez les enfants, souvent, c'est mal vu. On estime que, bon, ils sont trop petits. Et donc, dans ces services de transition, on peut aborder toutes ces questions liées à la santé reproductive et sexuelle. Et celle-là, ça a tout son intérêt. Et souvent, ça aide les parents. Ça joue un rôle aussi de formation, d'éducation des parents pour les emmener aussi après à continuer un certain dialogue, souvent pas tout, pas en profondeur, parce que comme on a dit, culturellement, ce n'est pas aisé que des adultes, des parents parlent de sexe avec leur enfant.
Les soignants soulignent l'importance d'aborder, docteur Hortense Acca, des questions comme les violences sexuelles, et en particulier chez les jeunes filles, la question du consentement. C'est quelque chose de primordial.
C'est tout à fait primordial, mais j'aimerais rebondir sur ce que docteur Fassino vient de dire, c'est que nous sommes maintenant dans une société qui connaît le VIH, parce qu'il y a une sensibilisation qui est faite. Vous savez qu'en Afrique subsaharienne, nous sommes très touchés par cette pandémie. Et les parents, culturellement, ne sont pas préparés pour parler de sexualité, de sentiments avec les enfants. Mais dans le cadre des consultations, ils viennent avec des questions et des demandes au personnel soignant, disant « il faut que tu éduques ton enfant, il faut que tu fasses quelque chose ». Donc on se rend bien compte qu'ils sentent le besoin de le faire, ils ne savent pas comment le faire.
C'est un nouveau rôle.
Et ils s'en remettent vraiment au personnel soignant. Et c'est vrai que le personnel soignant devrait pouvoir saisir cela pour faire toute cette éducation, toute cette sensibilisation. Ce qui n'est pas toujours aisé du point de vue aussi des soignants, qui eux-mêmes aussi sont pris par les problèmes culturels et qui pensent que parfois, en parler avec les ados, c'est comme les inciter certainement à pratiquer une sexualité débridée.
Docteur Hortense Acca, tout à l'heure on parlait du dépistage compliqué. Quand vient ensuite, si le résultat est positif, le moment de l'annonce? Comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'il faut prendre des précautions particulières avec un adolescent ou une adolescente?
Merci beaucoup. La question pour moi a deux volets. C'est d'abord deux volets qui vont concerner deux types de populations chez les adolescents. Nous avons les adolescents qui sont nés avec le VIH-Sida, donc qui ont eu une transmission à partir
de la
mère à l'enfant. Et ces enfants-là ont grandi avec le VIH, mais n'ont pas pu avoir l'annonce parce que enfants, ils ont été portés par les parents, les substituts parentaux, donc ils avaient à prendre des médicaments, à avoir une prise en charge médicale et à aller aux consultations, et c'était directement assuré par les parents, et vient le moment où ils deviennent adolescents et où effectivement se pose le problème de l'annonce. Alors dans ce cas de figure, déjà ce qui est important, c'est de préparer les parents au fait que l'enfant va grandir. Madame Rose Dossou le disait tout à l'heure, lorsque l'enfant naît et qu'il est infecté par le VIH, on se demande s'il va vivre. Et maintenant, nous avons vu avec l'accès aux antirétroviraux qu'on est passé d'une histoire d'enfant infecté par le VIH à une histoire d'enfant vivant avec le VIH. Ce qui veut dire que nous sommes là dans le cadre d'une maladie chronique. Mais les parents ont besoin d'être accompagnés et de savoir que, avant l'adolescence, il faut informer cet adolescent, faire l'annonce, qui va être faite donc avec le personnel soignant, faire l'annonce pour que l'adolescent devienne autonome et qu'il puisse aussi assurer sa prise en charge. Le deuxième groupe, ce sont les adolescents qui vont connaître leur infection au moment de l'adolescence. Là, en général, il y a donc le pré-test, il y a toutes les informations avant et l'annonce est faite. Effectivement, il y a aussi toute cette phase de post-annonce où on doit pouvoir recevoir les sentiments, les émotions, tout ce que vit l'adolescent qui est parfois une histoire de fin de vie. Quand on dit que j'ai le sida, je suis déjà mort, pour pouvoir l'aider à passer ce cap-là et aider les familles également à pouvoir le faire.
Avec un espoir de vie, puisqu'il y a les traitements, les antirétroviraux. Docteur Patricia Fassino-Ekwevi, justement, comment est faite cette éducation thérapeutique? Parce que se soigner chaque jour et l'envisager jusqu'à la fin de sa vie, ce n'est pas simple. Il faut se projeter justement avec ce traitement. C'est lourd physiquement, c'est lourd psychologiquement. Comment ça se passe avec les jeunes?
L'éducation thérapeutique doit être une activité de tous les jours. De tous les jours avec plusieurs intervenants. Le jeune lui-même qui prend ses médicaments, il doit être sensibilisé à respecter les horaires de prise de médicaments et la quantité des comprimés à prendre, parce qu'on va y revenir. Quand vous êtes en première ligne de traitement, c'est-à-dire que vous n'avez jamais reçu des antirétroviraux, en général, vous avez un nombre très limité de médicaments à prendre, voire un seul comprimé à prendre par jour. Mais on se rend compte que l'adolescent, quand il passe justement cette période de puberté avec le refus des normes, il se rebelle un peu contre tout ce qui est venant de l'adulte, il prend moins bien ses comprimés, ses médicaments, et donc il se retrouve souvent en deuxième, en troisième ligne de traitement parce que les premiers ne marchent plus. Donc on a une résistance. Et donc là, il se trouve avec un nombre plus élevé de comprimés et là devient aussi la difficulté à être observant. L'observance doit être aussi l'action de l'équipe soignante. L'équipe soignante, comme je l'ai dit, doit autant que possible trouver la combinaison thérapeutique la plus adaptée à cet adolescent, à son mode de vie. Je m'explique. Vous avez un adolescent qui est un travailleur de nuit, on va peut-être éviter des médicaments qui peuvent être cause de somnolence parce que ça peut représenter un risque ou bien ne les prendra pas parce qu'il va dire que quand il les prend, il n'est pas bien, il ne peut pas faire son travail. L'observance, c'est une action concertée avec la famille. La famille doit être partie prenante. Vous savez, c'est une maladie chronique. Tous prendre un traitement pendant une semaine, deux semaines, un mois, ça devient compliqué. Et donc, il a besoin de soutien. Il y aura des moments où il voudra abandonner. Il y a des moments où il va demander, comme on dit parfois, des vacances thérapeutiques. Et là, la famille doit être à côté pour l'encourager à toujours bien prendre ses médicaments. Donc, l'éducation thérapeutique, elle est clé dans la prise en charge thérapeutique d'un malade chronique, donc d'un adolescent vivant avec le VIH.
Rose Dessous, question centrale aussi pour le milieu associatif, hein, cette fameuse observance, surtout chez les adolescents, c'est très important.
Oui, c'est très important, mais c'est vrai que la partie, l'observance est très importante, mais par contre aussi, il faut le soutien de la famille. Et donc, ce que l'ONG fait, c'est de préparer les parents à accompagner cet enfant qui va être mis sous traitement ou qui est sous traitement pour qu'il puisse comprendre l'intérêt de prendre correctement son traitement et puis de lui donner, comme on l'a dit, de l'amour. Il faut que ces enfants se sentent importants et qu'ils sentent qu'on est avec eux et que en le prenant, ils vont vivre le plus longtemps possible et réaliser leurs rêves. Le plus souvent, ce qu'on remarque au départ, c'est que les parents eux-mêmes sont très soucieux parce qu'ils se disent « Est-ce que ces enfants vont vivre ?» C'est la question que les parents se posent. Mais avec le temps, quand on voit que l'enfant prend les médicaments et qu'il se porte bien, on commence à faire des projets. On se projette dans l'avenir. Et donc, je pense que c'est très important de les accompagner et de leur rappeler que c'est important de prendre ces médicaments, même quand parfois ils sont découragés, parce que c'est normal, prendre les médicaments tout le temps, parfois ils se disent, mais je ne suis plus malade, pourquoi je dois continuer de prendre les médicaments? Mais nous avons des stratégies. On leur dit chaque fois, est-ce que vous ne mangez pas chaque jour? Même quand on est rassasié aujourd'hui, ça ne nous empêche pas de manger le lendemain. Prenez ça comme si vous êtes en train de prendre de la nourriture. Les traitements que vous prenez, c'est de la nourriture pour que vous puissiez rester
en bonne santé.
C'est
vital, tout simplement. Voilà. Justement, peut-être à ce sujet, il y a certains manquements du côté de la prise en charge psychologique de ces enfants séropositifs. S'ils avaient davantage de recours, docteur Hortense Acca, eh bien, peut-être qu'ils seraient moins tentés de lâcher en cours de route le traitement. Il y a l'éducation thérapeutique de la part des pédiatres, des soignants, des infirmières, des relais aussi, hein, des pères. Il y a d'autres malades qui peuvent leur parler, mais peut-être. Et en tout cas, on le voit dans de très nombreux États africains, une sous-dotation en psychologues, en psychiatres, tout ce qui est du domaine du mental est vraiment laissé de côté et c'est tragique.
Mais tout à fait, tout à fait. Je suis vraiment d'avis avec vous pour dire que l'aspect psychologique est très important. Vous voyez, on parle d'observance, de prendre des médicaments et on parle d'éducation thérapeutique. Mais tout n'est pas de dire tu dois prendre 2 comprimés le matin, tu dois en prendre 3 le soir, etc. Pourquoi est-ce que l'adolescent ne prend pas le traitement? Parfois, il sait que j'ai besoin de prendre le médicament, on me dit que je serai en bonne santé. Mais il peut y avoir d'autres mobiles qui sont des mobiles qui sont plus liés à ses sentiments, à ce qu'il pense. Je ne suis pas comme les autres, même si je vis demain et qu'aujourd'hui, je ne peux pas m'identifier à un autre jeune. Est-ce que ça vaut la peine? Donc, il y a besoin d'avoir le côté écoute, accompagnement, soutien psychologique et parfois une prise en charge psychologique même de cet adolescent qui est totalement désespérés du fait de vivre avec le VIH. Donc, c'est pas seulement l'éducation thérapeutique en tant que telle, mais c'est tout cet accompagnement qui permet une qualité de vie.
Parce que, docteur Patricia Facino-Ecuevi, c'est pas parce qu'on a des traitements ultra perfectionnés qu'on n'a pas mal en soi d'être malade.
Pas du tout, pas du tout. Et peut-être même, comme vous le dites, quand on a des traitements ultra personnalisés, on se dit, c'est peut-être grave. C'est pour ça qu'on me fait quelque chose de si spécial. Voilà. Donc, non, on a besoin. Les médicaments, oui. Mais au jour d'aujourd'hui, les médicaments, ce n'est pas tout. On a vraiment besoin d'un accompagnement psychologique, d'un accompagnement familial, d'un accompagnement scolaire, d'un accompagnement nutritionnel. On a besoin d'accompagnement.
Et des manquements dans cet accompagnement, on l'a vu au point de vue psychologique et on le voit aussi sur le plan financier, en particulier dans le cadre associatif. Rose Doussou, vous aviez monté une maison des orphelins, un lieu de transition formidable, où vous accueillez des enfants quand ils étaient rejetés de chez eux, un lieu de vie, un lieu d'amour justement pour donner tout ce qui manque quand on est mis à la porte de chez soi par les parents par exemple. Avec l'équipe de votre association Shigata, vous aidez les enfants et pourtant l'avenir même de votre association aujourd'hui, eh bien elle se retrouve menacée. Expliquez-nous pourquoi.
Effectivement, l'association a été créée pour apporter pour aider les enfants séropositifs et les orphelins de sida. Et dès que nous avons créé cette association, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des enfants qui étaient rejetés par leur propre famille. Et certains enfants, par exemple, qui perdent leurs deux parents, sont traités de tous les noms de sorciers, de ceci. Donc, on a décidé de mettre en place un centre d'accueil qu'on appelait un centre de transit. L'objectif de ce centre, c'était de recueillir ces enfants et de les garder au moins sur 2 ans, le temps de sensibiliser les parents pour que ces enfants retournent dans leur famille biologique. Parce qu'on estime que la place des enfants, c'est dans leur propre famille. Et donc, nous avons... Cette maison d'accueil a existé pendant quelques années avec le soutien de nos partenaires. Et après la crise de 2011, malheureusement, nous n'avons pas pu continuer. Nous avons été obligés de fermer ce centre en 2013. Aujourd'hui, le besoin est là. On a toujours des enfants qui ont besoin de passer dans un centre parce que les problèmes qui datent, les problèmes depuis 10 ans, on a toujours les mêmes problèmes en 2017. On a des enfants qui perdent malheureusement les deux parents et on a du mal à les accepter dans leur famille. Ces enfants ont besoin d'être recueillis, ils ont besoin d'être accompagnés et puis progressivement retourner dans leur famille biologique. Mais pour des raisons financières, nous ne pouvons plus mener cette activité. Pourtant, nous savons très bien que c'est une activité très importante pour les enfants qui sont dans ce besoin-là.
Alors, on l'a compris, hein, l'implication de très nombreux acteurs, les soignants, les associatifs, milieux éducatifs, les parents, les relais communautaires. On sent toujours une sorte d'effervescence hein, quand il y a des grandes conférences, conférences internationales comme ICASA, mais on a un petit peu l'envie de se poser la question. Et après, sur le terrain, par exemple dans les régions, en milieu rural, comment ça se passe? Est-ce que, d'après vous, docteur Hortense Acca, les pouvoirs publics répondent vraiment présents pour protéger l'avenir de leur jeunesse?
Je crois et j'espère que avec aussi ce sommet UAUE qui s'est focalisé justement sur la jeunesse, il y aura.
C'était la semaine dernière à Abidjan.
C'était la semaine dernière à Abidjan. Il y aura de grands changements parce qu'il y a eu de grands engagements. Mais je crois que le problème des jeunes et des adolescents préoccupe les dirigeants. Mais très souvent, il y a le besoin de savoir qu'est-ce qu'il faut faire exactement, comment toucher la cible exactement. Et là, je dis également que les adolescents doivent être considérés comme des acteurs de ce que nous devons faire. Il faut écouter les adolescents pour savoir quels sont véritablement leurs besoins. C'est pas de tout créer et de leur dire, voilà, on vous met dans une boîte, débrouillez-vous. Non. Les adolescents disent souvent, on nous regarde, mais on ne nous écoute pas. Donc, il y a besoin de savoir aussi quels sont les véritables problèmes, de penser les problèmes, de pouvoir essayer de trouver les solutions en tenant compte de ces adolescents qui deviendraient donc acteurs, mais qui pourraient aussi permettre de faire bénéficier les autres adolescents en matière de prévention.
Docteur Patricia Fassino-Ekwevi, est-ce que pour vous, les pouvoirs publics en font assez?
Ils font quelque chose, mais je pense qu'ils peuvent faire beaucoup plus. Ils peuvent faire beaucoup plus. C'est une question, par moment, comme a dit Dr Aka, de choix. Et on est très heureux que ce sommet se soit focalisé sur la jeunesse et que tous les engagements qui ont toutes les décisions prises se traduisent vraiment en actes. Nous attendons encore beaucoup. Ils ont certes commencé, mais nous attendons encore beaucoup.
Des fois, c'est dommage en radio de ne pas avoir l'image parce que je vous ai vu sourire, rose dessous. Vous, c'est quoi votre sentiment aujourd'hui quand vous voyez que votre association, qui existe depuis près de 15 ans, c'est ça maintenant, eh bien, elle se retrouve menacée alors que peut-être jamais les besoins n'ont été si urgents. Vous êtes quoi? Vous êtes désabusée?
Je peux dire que nos dirigeants font beaucoup, mais je pense qu'ils passent à côté de l'essentiel. Parce que la priorité aujourd'hui des jeunes, c'est de les encadrer et de les amener à devenir quelqu'un pour assurer la relève de demain. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, on met beaucoup d'argent dans des choses qui ne nous avancent pas vraiment.
Vous parlez de quoi, par exemple? Un peu d'humanitaire spectacle, on va dire?
Oui,
du marketing humanitaire
fois.
Et une absence de travail de terrain, de connaissance vraiment des acteurs de terrain?
Oui, au début de la création de l'ONG, on a énuméré beaucoup de besoins et on a classé ça par priorité. Pour intervenir, il faut faire la classification des besoins. Et donc, il y a des besoins prioritaires et des besoins secondaires. Et c'est ce que nous avons fait. Il y a certains enfants qui n'ont pas besoin d'un soutien économique parce que les parents ont déjà
sont capables.
Voilà. Pour ceux-là, ils ont besoin qu'on échange avec eux, qu'on les accompagne, qu'on soit avec eux, avec les entourer. Il y a des enfants qui ont besoin de soutien économique. Et donc, à chaque fois que nous écrivons un projet, nous mettons l'accent sur ces besoins-là. Mais parfois, on nous dit, c'est pas ce qui nous intéresse. C'est pas ce qui nous intéresse. Il y a certains qui prennent les médicaments, qui n'ont rien à manger. Et vous demandez aux gens de prendre des médicaments. On sensibilise la population. On demande aux gens d'aller se faire dépister. Et on vous donne les médicaments gratuitement. Mais le problème réel de cette personne, c'est de se nourrir. Et quand je n'ai rien à manger, je ne peux pas prendre les médicaments. Ou quand je prends les médicaments, j'ai des malaises qui sont provoqués par les médicaments. Je ne prendrai pas les médicaments. Et je pense que c'est de ça qu'on doit parler. Je pense que nos gouvernants savent très bien ce qu'ils ont à faire, mais ils font semblant de ne pas le savoir. Et nous, les communautaires, nous n'arrêtons pas de les interpeller, mais c'est comme si ça ne leur dit. C'est pour ça que je dis, ils passent à côté de l'essentiel.
Malgré tout, on va garder un espoir par rapport à ce que vous faites. Vous avez quand même votre implication personnelle, on peut le dire, cette implication, c'est celle d'une mère. Difficile de faire baisser les bras à une mère. Rose Dossou, vous allez quand même continuer, même si parfois les moyens vous manquent. Qu'est-ce que vous comptez faire justement pour continuer à aider ces jeunes qui ont besoin de vous?
J'ai fait une promesse à moi-même et à ma communauté. Cette association est créée à partir de l'histoire de mon histoire personnelle. Et j'ai juré que je me battrai jusqu'au bout. Et je suis prête à le faire jusqu'au bout. Même si aujourd'hui, on a du mal à trouver des financements pour travailler, ça ne nous empêche pas de toujours accompagner les parents avec le conseil. Nous avons la chance d'avoir des personnes comme Dr Aka, Dr Fassino, qui sont là, qui nous accompagnent. Et nous irons jusqu'au bout. Tout ce que nous demandons au gouvernement, c'est de... Le gouvernement sait, il sait que nous sommes là. Il connaît le travail que nous faisons. Ils savent que c'est une partie des réponses. Nous sommes une partie des réponses. Eux, ils mettent les médicaments à disposition. Mais si la partie communautaire n'est pas là, c'est comme si on n'a rien fait. Donc, nous sommes complémentaires.
Important de travailler avec des personnes de bonne volonté. Merci beaucoup, Rose Dessouin, présidente de l'association Shigata. Docteur Hortense Aka, vous vouliez peut-être ajouter le mot de la fin?
Oui, rajouter juste et insister sur le fait qu'on a besoin des ados pour savoir ce qu'il faut leur donner pour le mieux.
Besoin d'entendre leurs paroles?
De les entendre, de les voir vivre et de voir aussi quels sont leurs projets de vie.
Merci beaucoup, docteur Hortense Aka, psychologue clinicienne, maître de conférence à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody-Abidjan. Merci aussi à vous, docteur Patricia Fassinoué-Cuevi, pédiatre ici à Abidjan, directeur scientifique et programmatique à la Fondation Elisabeth Glaser. Mohamed Keïta, interprète de Julien dans la série C'est la vie. Priorité santé touche à sa fin. Priorité santé consacrée à la prévention du VIH-Sida chez les adolescents. Émission produite avec le concours du Fonds français Muskoka pour la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Et merci à l'Institut français qui nous a ouvert ses portes pour cet enregistrement. Merci à l'équipe de Priorité santé, Ophélie Lassène, Victor Hull, Assez tous à maquiller à Paris. Demain, toujours dans notre émission, toujours ici à Abidjan, nous parlerons de la stratégie de lutte contre la tuberculose. À demain.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance. Notre métier, l'assurance.